d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du feu, dans laquelle nous allons aborder cet élément sous divers aspects matériels et symboliques. Pour commencer cette série, après un nouvel épisode, le 76e de la Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quien et réalisé par Françoise Camard, nous avons le grand bonheur de recevoir le préhistorien et ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle et directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine Fondation Albert Ier Prince de Monaco, Henri de Lomelay, qui publie chez Odile Jacob « La domestication du feu au temps paléolithique ». Avec lui, nous verrons comment et pourquoi les hominidés ont récupéré le feu de la foudre pour améliorer leur quotidien et conquérir de nouveaux territoires. Mais auparavant, je vous l'ai promis, un épisode de la guerre froide, de la Fabrique de la guerre froide, après lequel nous nous retrouverons avec Victor Massé-Lépinay qui a proposé cette semaine avec nous et avec Henri Delomelay. Jdeme dál v socialismu a demokracii. Vážení přátelé,
Уважаемые гости. 27-й съезд КПСС. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tejon. Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour. Ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes-frontières n'interviennent pas.
Symbole par excellence de la guerre froide, le mur de Berlin tombe le 23 novembre 1989. Pour autant, le rideau de fer nommé par Churchill en 1946 a-t-il disparu dans le même mouvement? Réflexion sur la liquidation de la guerre froide, Frédéric Bozo.
Donc la chute du mur de Berlin pose en réalité la question de la place de l'URSS et au-delà de la Russie dans le système européen. Et si l'on parle aujourd'hui à nouveau de guerre froide, par commodité, me semble-t-il, c'est parce que la Russie de Poutine s'est engagée dans une sorte de révisionnisme à la fois géopolitique et historique, dont la légitimation même est une contestation de la manière dont a été gérée la fin de la guerre froide par les Occidentaux au détriment des intérêts russes et soviétiques. Comme toujours dans ces grands événements historiques, les responsables raisonnent en fonction des expériences précédentes. Et au fond, les Occidentaux sont à peu près tous d'accord, à partir de 89, pour éviter un nouveau Versailles. Alors, le nouveau Versailles, naturellement, fait référence non pas à l'Allemagne, vaincue de 1918, mais à l'URSS de Gorbatchev. Et le mot d'ordre, que ce soit chez George Bush, chez François Mitterrand, chez Helmut Kohl, chez Margaret Thatcher, c'est éviter un règlement européen qui marginalise dangereusement la Russie, ou en fait l'URSS, avant qu'on puisse parler de Russie en 91. Donc il y a un accord là-dessus. Bush, Kohl, Thatcher étaient tout aussi persuadés de la nécessité de préserver l'ancrage européen de l'URSS. Simplement, ils n'ont pas su le faire. Et toute l'histoire européenne des années 90, c'est une histoire d'occasion manquée d'assurer justement l'ancrage occidental et européen de la Russie. À certains égards, la frustration russe était inévitable. Parce que face au bouleversement de 89-90, le réflexe, c'est de se référer au passé, je vous l'ai dit, éviter un nouveau Versailles, et c'est aussi de s'accrocher à ce qu'on a. Et ce qu'on a, ce sont les institutions multilatérales qui ont été créées après 1945. Alors, l'ONU n'est pas tellement en question dans cette affaire. Ce qui est en question, ce sont les institutions euro-atlantiques. Et qu'est-ce qu'on a en 89 à sa disposition? On a la communauté européenne qui va devenir l'Union européenne. Et le grand œuvre de Mitterrand et de Kohl, c'est d'avoir préservé, malgré la réunification allemande, la communauté européenne et d'avoir transformé en une véritable union politique. Et on a également l'OTAN. Et là, naturellement, c'est l'obsession américaine de 89-90, conserver l'Alliance Atlantique parce qu'elle est justement la justification de la présence américaine en Europe, à un moment où les Américains, ils n'ont pas tout à fait tort, sont persuadés qu'on a encore besoin d'eux pour préserver la paix et la sécurité. Les crises yougoslaves, d'ailleurs, quelques mois après, le montrent. Donc on a ces deux institutions, l'Union européenne, qui est donc le fruit du traité de Maastricht de 91, et l'Alliance atlantique, transformée, rénovée. Et le réflexe compréhensible, c'est d'ancrer l'avenir européen dans ces deux institutions qui ont fait leurs preuves. Et naturellement, la place de la Russie est problématique par rapport à ces institutions. Elle n'y appartient pas, ni à l'une ni à l'autre, même si il y a des ballons d'essai pour imaginer une appartenance de la Russie à l'OTAN, en 93 par exemple. Et même si on essaye de développer les liens stratégiques entre l'Union européenne et la Russie, eh bien le rendez-vous russe de ces institutions occidentales est constamment manqué.
Frédéric Bozeau, que pensez-vous du retour de l'usage de cette expression de guerre froide qu'on a vu énormément ces derniers mois dans les médias?
D'abord, ça en dit long sur l'imprégnation de la mémoire collective de cette période. Et il n'est pas surprenant qu'elle ressurgisse aujourd'hui, dès lors que le paradigme semble le même, celui de l'affrontement entre l'héritière de l'URSS, la Russie, et le monde occidental. Cette expression, et pour le reste, est tout à fait mal choisie en réalité. J'allais vous dire, c'est à certains égards pire que la guerre froide. Parce que la guerre froide avait au moins une vertu stabilisatrice. Elle avait fini, surtout à partir de la crise de Cuba en 1962, à créer une structure stable de paix, comme disait Henry Kissinger dans les années 70, c'est-à-dire un système dont la guerre était de facto bannie du fait de la bipolarité et de la dissuasion nucléaire. En sorte que les frictions éventuelles qui avaient pu exister dans la première partie de la guerre froide, notamment à Berlin, la crise de 48-49 ou de celle de 58-61, ces frictions ont fini par disparaître complètement. Et la guerre froide est devenue, en effet, à partir des années 70, un système extrêmement stable. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Si vous regardez la question ukrainienne, on voit bien qu'il y a un risque. Et le risque, c'est celui, au fond, d'une zone grise. La guerre froide avait été consacrée par l'affrontement de deux blocs parfaitement délimités. Et justement, on revient à Berlin. Le dernier endroit où les choses n'étaient pas claires, c'était Berlin, jusqu'à la construction du mur en août 61. Dès lors que le mur est construit, les blocs sont parfaitement délimités et il n'y a plus de zone grise, il n'y a plus d'incertitude sur à qui appartient tel ou tel morceau d'Europe. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. L'Ukraine est justement une zone grise. Et c'est ce qui permet aux dirigeants russes de prendre des risques. Peut-être demain voudront-ils tester les Occidentaux dans la région des États baltes. Ce serait prendre un risque encore plus important. Donc potentiellement, le système européen d'après-guerre froide est moins stable que celui de la guerre froide. Au fond, en parlant de guerre froide, on se rassure pratiquement.
Voilà pour ce nouvel épisode, le 76e de la Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quin et réalisé par Françoise Camard. Vous pouvez le télécharger séparément de l'émission du jour pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de ce feuilleton. Bonjour Victor Massé de Lépiné.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Henri de Lemelay, merci d'être avec nous.
Bonjour Emmanuel Rantin.
Alors vous êtes avec nous et ça tombe bien pour la publication d'un livre qui sort cette semaine et qui s'intitule « La domestication du feu au temps paléolithique » chez Odile Jacob, où vous revenez sur cette grande histoire, effectivement, de cette domestication du feu, sur laquelle nous reviendrons d'une autre manière, puisque demain vous faites une émission avec moi, Victor Mazet de Lépiné, autour de Prométhée, du mythe de Prométhée. Là, oui. C'est en préhistorien que vous abordez cette question de la domestication du feu. Alors peut-être posons-nous la question que vous posez dans ce livre, de savoir quand l'homme a commencé à aborder cette question du feu, sait-on et a-t-on évolué sur cette vision?
Bien, oui, on connaît bien parce qu'il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été conduites dans le monde. Nous savons que les premiers hominidés qui marchent debout, mais qui ne sont pas encore des hommes, apparaissent vers 7 millions d'années. Mmh. Ils marchaient pas bien debout, ils étaient bipèdes mais occasionnellement arboricoles. Mmh. Mais vers 2 millions et demi d'années, apparaît une nouvelle forme, qui sont déjà des hominidés, mais devenus des hommes. Et ils sont les premiers à fabriquer des outils. L'homme se caractérise par la fabrication de l'outil, par des stratégies de tâches élaborées, car l'outil s'inscrit dans une chaîne opératoire et il est réalisé en fonction d'un projet qui est projeté dans le temps. L'homme se caractérise aussi par l'acquisition sans doute d'un langage articulé. Mmh. Certes, au cours de nos fouilles, nous n'avons jamais découvert de paroles fossiles. Mais on peut dire qu'avec Homo habilis, il y a 2,5 millions d'années, qui fabrique des outils, toutes les caractéristiques anatomiques du crâne et de la surface du cerveau, parce qu'on arrivait à reconstruire la surface du cerveau en faisant un moulage à l'intérieur du crâne, sont réunies. Et s'il avait la possibilité de parler, pourquoi s'en serait-il privé? Et sans doute aussi, ces premiers hommes ont déjà des balbutiements de la pensée symbolique. Mmh. Ils fabriquent des boules, des polyèdres, des formes sphériques, dont tous les points sont à égale distance. Faire une boule sphérique par bouchardage, une bola, en quartzite, en basalte. Il faut des heures, des centaines d'heures de travail.
Qu'est-ce que c'est le bouchardage?
Le bouchardage, on prend un percuteur, un galet par exemple, et on tape jusqu'à ce qu'on arrive à faire la boule parfaitement sphérique.
Et ça, et
je ne pensais pas qu'ils jouaient à la pétanque avec. Hein. C'est sans doute que pour eux, c'était déjà un objet symbolique.
C'est ça, ce bouchardage et cette fabrication d'une boule, c'est 2,5 millions d'années à peu près.
Oui, à peu près, oui, on en connaît. Ou des fois, ce n'est pas aussi bien sphérique. Alors, on s'est posé la question, à quoi ça servait? Est-ce que ça servait à casser, à percuter? Mais préparer une boule avec des centaines d'heures de travail pour simplement casser, on prend un galet, on peut le faire, c'est pas besoin. On a pensé aussi que c'était, on les a rapprochés des bolas, d'un outil synergétique. Les Argentins réunissent deux galets avec une corde, un lasso, et ils envoient qui se roule autour des jambes d'un cheval, ça bloque le cheval pour l'attraper. On pourrait imaginer, mais il y en a qui sont trop lourdes pour être lancées à deux, reliées par un lasso autour des pattes d'animal sauvage. Moi, je pense qu'il y a une autre fonction qui est peut-être une hypothèse, bien sûr, une fonction symbolique.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors, c'est bien, on commence à 2,5 millions d'années Homo habilis.
Alors, les hommes n'avaient pas domestiqué le feu.
On n'avait pas encore domestiqué le feu.
Mais ils le connaissaient. Ils le connaissaient, parce qu'on sait qu'il y a des impacts de foudre dans toutes les régions de la Terre, et quand la foudre tombe sur une forêt un peu desséchée, un peu asséchée, elle peut s'enflammer. Et l'homme avait vu le feu. Les volcans aussi, là où coule, il y a le feu. Et donc les hommes connaissaient le feu. Alors, ils pouvaient en avoir peur, mais parfois ils ont pu le récupérer. Et on connaît des sites très anciens, comme le site de Swartkrans, près de Johannesburg, en Afrique du Sud, où on a des eaux brûlées, par exemple. Mais on n'a pas de preuves, dans ces époques très anciennes, qu'il y a des foyers aménagés, organisés, qui montrent que l'homme avait la domestication du feu et qu'il était capable de l'allumer à son gré.
Alors ce site de Swartkrans, justement, c'est des centaines, plusieurs centaines d'eaux brûlées qu'on a datées de 1 million d'années.
Oui, un peu plus. Oui.
Et c'est très intéressant, puisqu'on voit avec cet exemple la grande prudence des scientifiques. On a 270 eaux brûlées, mais on n'en conclut pas que l'homme avait pu maîtriser le feu.
Il pouvait s'en servir, mais on n'a pas on ne trouve pas dans ce site-là, par exemple, de foyer aménagé, de foyer organisé, où il y a une installation pour allumer le feu. Et puis, la plupart des sites de cette époque-là n'ont aucune trace de feu. Il y a par exemple un site où je vous invite à venir voir, c'est le site de la Conargo-Totavel, qui est un site fabuleux, qui est situé tout près de Perpignan, dans le sud de la France, en Roussillon, en pays catalan, Catalogne du Nord, au nord des Pyrénées. Et bien, dans la Conargo-Totavel, près de la ville de petit village de Totavel, il y a une grotte qui est située à 80 mètres au-dessus de la rivière. Et dans cette grotte, il y a des dépôts qui ont 16 mètres d'épaisseur. Et ce site est bien daté. Nous avons fait plus de 600 datations de ce site. C'est-à-dire que nous avons fait plus de datations sur les dépôts contenus dans le remplissage de la Conargo-Totavel que ce que la NASA en a fait sur les roches de la Lune. Et ce site est aujourd'hui parfaitement daté. Les couches les plus basses datent de 700 000 ans et la couche la plus haute date de 100 000 ans. Mmh. C'est-à-dire que pendant 600 000 années, entre 700 000 et 100 000 ans, on peut suivre l'évolution de l'homme, qu'est-ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, nombreux restes humains. Il y a 59 restes humains qui ont été découverts dans le site de la Conargo, donc à plusieurs niveaux. Donc on peut suivre l'évolution morphologique de l'homme. Il y a beaucoup d'outils taillés. On peut suivre l'évolution culturelle. Il y a aussi beaucoup d'ossements d'animaux. Et on peut suivre l'évolution de la paléobiodiversité. Il y a des couches froides, où le climat est froid, où il y avait des bœufs musqués. Le bœuf musqué est un animal qui vit aujourd'hui au-delà du cercle polaire. Eh bien, il vivait sur le rivage méditerranéen. Il y a des niveaux où il fait chaud. Il y avait surtout du cerf et du daim. Oui, donc on peut suivre l'évolution morphologique culturelle de l'homme, l'histoire de ses comportements de subsistance et de son mode de vie, mais aussi son évolution au sein de ses paléo-environnements, des paléoclimats et de la paléobiodiversité.
Et ça sur plusieurs centaines de milliers d'années, comme vous venez de le dire, Henri de Nomelet. Et donc un site comme celui-ci vous permet justement, ainsi qu'à d'autres, de réfléchir à cette introduction du feu. Puisque vous dites... À moins 500 000, on n'en a pas. Aux alentours de 400 000, on commence à en avoir, mais c'est presque accidentel et ça n'est que beaucoup plus tard.
Vous avez bien pris connaissance de ce livre, puisque en effet, dans les couches dont là j'ai compris, entre 700 000 et 400 000 ans, pas un seul os brûlé. Pas un seul. Alors quand l'homme a fait le feu, il y a plein d'os brûlés parce qu'on jette toujours les os dans le feu. Pas un seul os brûlé. Pas de charbon de bois. Mmh. Pas de cendres. Pas de pierre éclatée par le feu. Donc on est certain qu'à Konargatotavel au moins, entre 700 000 et 100 000 ans, il n'utilisait pas le feu, il n'avait pas domestiqué le feu. On a des dizaines de milliers d'ossements, de fragments d'os, pas un seul os s'est brûlé. Puis, vers 400 000 ans, il y a un plancher samitique qui date de 400 000 ans, qui bien date, il a été daté en particulier par la méthode de l'uranium-thorium, le rapport entre l'uranium-234 et le thorium-230, mais aussi par d'autres méthodes, la résonance électronique de spin, la thermoluminescence. Il est bien daté. Et au-dessus de ce plancher stalagmitique, dans les dépôts qui sont dessus, il y a d'abord dans des niveaux pas très riches en os brûlés ou en charbon de bois, mais il y en a. Il y a tous les niveaux, il y a des os brûlés, quelques charbons de bois, quelques pierres éclatées par le feu. Et dans les dépôts au sommet du remplissage, dont là j'ai compris entre 200 000 et 100 000 ans, alors il y a des quantités d'os brûlés, beaucoup de charbon de bois et beaucoup de cendres. Le feu était omniprésent dans l'univers humain.
Donc, est-ce que ça veut dire que vers 400 000 ans, l'homme commence à maîtriser le feu, c'est-à-dire à le ramasser?
Non, vers 400 000 ans. À 100 000 ans, non, même pas. Là, à Totavel, il n'y avait pas de volcan. Ils n'ont pas dû rencontrer d'incendie de forêt allumé par la foudre où ils en avaient peur. En tout cas, on n'a pas un seul os brûlé, pas un seul charbon de bois entre 700 000 et 400 000 ans. Oui, donc, mais... à Totavel, l'homme n'a jamais utilisé le feu avant 400 000 ans.
Oui, mais il y a Totavel, il y a d'autres sites, et vous commencez à dire dans la domestication du feu que, effectivement, 400 000 ans, cette date que vous avez notée pour Totavel comme n'étant pas une date marquante pour l'utilisation du feu, à d'autres endroits, dans d'autres endroits, on a trouvé autour de 400 000 ans quelque chose.
Avant 400 000 ans, on n'a pas de preuve que l'homme installait des foyers aménagés et qu'il utilisait le feu. Alors, il y a la plupart des sites, il n'y a pas de traces de feu. Et dans quelques sites, comme un site en Israël, Jakov, ou Swartkans, dont on a parlé tout à l'heure, ils se sont servis du feu, de feu naturel qu'ils avaient apprivoisé, conservé, entretenu pendant un certain temps, puis après, ils ne savaient plus l'allumer. Mmh. Mais à partir de 400 000 ans, l'homme domestique le feu. C'est un phénomène extraordinaire. Et le feu a été domestiqué par l'homme à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète. On connaît des foyers qui datent de 400 000 ans à Choukoutien, en Chine. On connaît les foyers de Vertészolos, en Hongrie, à 80 km à l'ouest de Budapest, où on a des foyers organisés qui date de 400 000 ans, 380 000 ans. On connaît aussi les foyers de Teramata à Nice, je vais vous en parler plus longuement, qui sont des foyers organisés, installés dans des fosses ou sur des dalles galées. On sait même avec comment ils étaient entretenus, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches multidisciplinaires qui permettent d'étudier ces foyers. On connaît des foyers aménagés en Bretagne, dans le Finistère, sur le site de Ménez-Régan, qui est fouillé par Jean le Romonier, qui est au sud de la pointe du Raz, qui date de 400 000 ans, qui sont liés d'ailleurs à une plage marine comme à Teramata. On connaît des foyers aménagés en Angleterre, dans le Suffolk, le site de Bechassy, qui a été fouillé par le professeur Goulet. On sait que le feu a été domestiqué vers 400 000 ans, à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète, et ça a permis à l'homme de pénétrer dans les zones tempérées froides.
Mais alors comment est-ce que vous expliquez cela, qu'à peu près au même moment, dans des endroits qui ont plusieurs milliers de kilomètres d'écart, ce soit au même moment que les hommes aient réussi...
Alors là, vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre.
Quels sont
le préhistorien, le paléontologue, explique le comment. Nous sommes des cinéastes, si vous voulez, du passé. Nous, des détectives du passé, nous reconstituons ce qui s'est passé. Mais expliquer le pourquoi, c'est pas facile. D'ailleurs, dans l'évolution humaine, souvent, les choses sont concomitantes. On va parler, par exemple, de l'invention de l'art. L'art a été inventé vers un peu plus de 38 000 ans en Europe occidentale, avec la grotte Chauvet, qui est bien connue. Mais on sait qu'il y a des peintures aussi anciennes en Australie. On a des peintures anciennes en Tanzanie, et c'est les hommes de la grotte Chauvet n'avaient aucun moyen de rencontrer les hommes des aborigènes d'Australie.
Alors vous nous expliquez le comment, mais vous devez bien quand même vous préoccuper parfois vous-même du pourquoi, et peut-être qu'il y a des hypothèses sur comment est-ce qu'on peut expliquer ça, est-ce qu'il y a quelque chose...
On peut penser que l'évolution de la cognition était arrivée à un certain point où les hommes étaient capables de domestiquer le feu. Mmh. Et le feu, si vous voulez, a été vraiment un formidable moteur d'humanisation. Parce que le feu s'est généralisé très vite. Et à partir de 400 000 ans, dans tous les sites que l'on fouille, on trouve des traces de feu. Des os brûlés, par exemple. L'os brûlé, c'est le principal critère pour connaître que l'homme avait domestiqué le feu. Et dans des grottes néandertaliennes, comme la grotte de l'Ortus, près de Val-Flonès, dans l'Hérault, c'est au nord de Montpellier, 30 km au nord de Montpellier. On a un remplissage de 7 mètres d'épaisseur. Il y a tous les niveaux, il y a des charbons de bois. Donc c'était pas des campements de longue durée, c'était des actes de chasse, de chasseurs de bouquetins. Et chaque fois qu'ils revenaient dans la grotte, ils étaient capables d'allumer le feu. Ils avaient inventé la méthode pour produire le feu. Alors, nous savons le faire. On frotte avec un morceau de bois sur un autre morceau de bois qu'on fait tourner avec un archer pour que ça tourne vite. Ça fait chauffer le bois, ça produit un peu de braise, si vous voulez. Mm-hmm. Et après, on la met sur de l'étoupe, un champignon bien sec ou un peu de mousse, et on arrive à faire gérer la flamme. D'ailleurs, nous le faisons souvent, des démonstrations. Si vous venez au musée de préhistoire de Tautavel, vous verrez qu'on a des démonstrateurs qui allument le feu. D'ailleurs, les gens sont tellement surpris qu'en général, quand la flamme jaillit, le public applaudit.
Alors, cette découverte du feu, donc que vous datez aux alentours de 400 000 ans avec d'autres préhistoriens, Henri Delemelay, elle dit beaucoup parce qu'elle dit aussi qu'il y a avec le feu et sa maîtrise, pourrait-on dire, tout un tas de nouveaux modes de vie qui vont s'installer. Tout à l'heure qu'effectivement, on pouvait conquérir des terrains plus sec et plus froid, en montant plus au nord.
Oui, ça a apporté beaucoup de choses. D'abord, le feu éclaire. Ça allonge le jour, dépend de la nuit. Ça a permis à l'homme de pénétrer dans les grottes. Mais récemment, a été mis en évidence dans la grotte de Bruniquel que des hommes étaient allés au fond de la grotte en passant des chatières très étroites avaient cassé des stalactites et qu'ils en avaient fait un grand cercle. Et s'ils n'avaient pas eu le feu, ils n'auraient pas pu y aller. C'est un site très ancien qui date de plus de 100 000 ans. Et le feu a permis à l'homme donc de pénétrer dans les cavernes. Avant, il ne pouvait vivre qu'à l'entrée des grottes. Alors, du jour le feu, il peut devenir spéléologue et aller très loin dans les grottes. Mais le feu aussi a permis d'allonger l'été au dépens de l'hiver. Il a permis à l'homme de pénétrer dans les zones tempérées et froides. Et nous savons par exemple que pendant les périodes interglaciaires du Quaternaire, les hommes pouvaient aller très haut dans le nord de l'Europe. Et quand il faisait froid pendant les périodes glaciaires, ils se repliaient dans le sud de l'Europe, sur les bords de Méditerranée, en Italie, en Espagne, en France du Sud. Et on connaît un site en Belgique qui s'appelle Belroche, près de Spremont, qui date d'environ 600 000 ans, où pendant une période interglaciaire, l'homme était monté très au nord dans l'Europe. Et puis pendant les périodes froides, il redescendait. Mmh. Le jour où l'homme a domestiqué le feu, il a conquis les périodes froides, il a pu s'installer dans les zones tempérées froides, il a pu s'installer dans les zones boréales, il a même pu s'installer sur le sol, sur le permafrost, sur le sol gelé permanent.
Une autre découverte ou une autre chose permise par le feu, c'est de faire cuire les aliments.
Ah oui,
avez évoqué les eaux brûlées. Qu'est-ce que ça a changé, la cuisson des aliments?
Bien, la cuisson des aliments, c'est plus agréable. C'est la viande cuite est plus succulente que la viande crue. Quoique moi, je suis un peu un préhistorique, parce que j'aime bien le steak tartare. Mais enfin, je suis un cas peut-être. Mais c'est vrai qu'en faisant cuire la viande, la mastication est rendue plus facile. Si bien que la masse musculaire qui en serre le crâne peut se relâcher, ça a permis au crâne de se développer. Et puis la viande cuite ou la végétation cuite, sont plus faciles à digérer. Donc le système digestif, les boyaux, tout ça, les viscères, sont plus plus ou moins importantes.
Et puis, et puis j'imagine que les parasites aussi...
Ah oui, alors ça a permis d'allonger l'espérance de vie. Avant la à Totavel, avant la domestication du feu, les hommes ne dépassent pas l'âge de 20 ans, 18-20 ans.
Ah bon ?
À partir de la domestication du feu, on va vivre de plus en plus vieux. La dame du Cavillon, qui est très récente, qui date de 24 000 ans, c'est très récent, est morte à l'âge de 37 ans. Mais c'est un cas. Et parce que en faisant cuire la viande, on fait reculer les parasitoses, c'est évident. Mais le feu aussi a permis d'améliorer la fabrication des outils. Le professeur Nicolas Connard, qui est professeur à l'université de Tübingen, a découvert dans un site qui est situé près de Hambourg, qui s'appelle Schöningen, dans des lignites. Et dans les lignites, le bois se conserve. Mais il a trouvé des sagaies, des épieux en bois, qui ont plus de 2 mètres de long. Il y en a une qui a 2,20 mètres de long, dont la pointe est durcie au feu, car la pointe d'un épieu brûlé, durcie au feu, est plus résistante et plus dure que si elle n'est pas brûlée.
Et puis, j'imagine qu'il y a aussi la question de la chaleur du foyer. Et,
oui.
Et vous expliquez, c'est tout à fait intéressant, Henri de Lomelet, qu'effectivement, à partir du moment où on s'installe autour d'un feu,
on se raconte des histoires. Voilà. Mais vous savez, c'était des chasseurs. Et vous connaissez, vous êtes chasseur vous-même?
Oui, je l'ai été il y a très longtemps, je ne suis plus depuis très longtemps.
Vous devenez écolo. Oui, mais chasseur, après une campagne de chasse, vous avez fait de la chasse, vous vous réunissez entre chasseurs, vous faites une bouffe.
Oui.
Hein, toujours. Et au cours de cette bouffe, on se raconte des histoires de chasse.
Bien sûr.
Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, on parle d'un ancêtre qui était un très bon chasseur. Et le sanglier ou le rhinocéros qu'il avait abattu devient de plus en plus gros. Plus en plus monstrueux, il devient gros comme une montagne, et le chasseur qui l'a abattu devient un grand héros, un demi-dieu. Et on descend de ce demi-dieu, c'est ainsi que sont nés, à partir de 400 000 ans, les traditions culturelles régionales, les identités culturelles.
Mais comment peut-on savoir ça?
Ça, c'est facile. Avant la domestication du feu, par exemple à Totavel, nos industries n'ont pas de désigne. C'est-à-dire qu'elles sont toutes comparables à celles très anciennes de l'Europe ou de l'Afrique. Et elles sont très homogènes, tout à la fois toutes comparables et toutes différentes. Mmh. À partir de 400 000 ans, on trouve dans ces industries des désignes qui traduisent quelque chose de local, de régional.
Design,
par exemple,
c'est ça. En fait, oui, design, vous dites.
Design
c'est ça.
Oui, design. Par exemple, en Italie, dans le Latium, entre Rome et Monte Cassino, il y a des cultures acheuliennes, à partir de 400 000 ans, ont des bifaces, des outils, taillés en os d'éléphant, d'éléphantique. Et il y a nulle part ailleurs. C'est propre à cette région. Dans le nord de la France, dans le bassin de la Somme, on a des bifaces naviformes. Dans Chalosse, on a des bifaces triédriques. C'est des formes, des outils aménagés qui ont une ressemblance parce qu'ils correspondent à un groupe.
Et ces progrès ou ces différenciations techniques, donc vous pensez qu'elles sont liées à des différenciations symboliques, à des différenciations de récits, de culture.
Elles doivent être liées à des différences, à des traditions culturelles très régionales. Les gens se copient, ont l'habitude de faire quelque chose de la même façon. On reconnaît d'une homogénéité de certains territoires dans les cultures.
Et puis, quand on maîtrise le feu, on peut se protéger contre les prédateurs aussi.
Ah
on
oui,
s'installe
si, oui,
au
si
fond
vous,
d'une grotte voilà, et puis on si fait vous, un feu en entrée de grotte.
Gorges, venez camper avec nous dans les gorges. Non, maintenant, c'est plus dangereux, il n'y a plus d'animaux sauvages. Mais à l'époque préhistorique, on allumait un feu devant l'entrée de la grotte, la Baume Bonne, depuis 400 000 ans. Et on savait que la nuit, on ne serait pas dérangé par une panthère ou par une hyène, car les animaux ont peur du feu. Donc, c'était... Mais l'homme, la domestication du feu est allée... a permis beaucoup de choses. Vous me parlez d'une activité symbolique. Bien, nous avons trouvé à Teramata, dans des couches qui datent
près
de 400
000,
près de Nice, oui, dans des couches qui datent de 400-300 000 au cours de nos fouilles, c'est des fouilles de sauvetage, nous avons trouvé des petits granules d'ocre, des crayons de couleur, on pourrait dire. Alors, il y en a de rouge, il y en a de jaune. Alors, on a essayé de voir d'où ils venaient, parce que on les a trouvés dans une dune. Ils n'ont pas été apportés par le vent. C'est pas possible. Hein, le vent n'a pas la force d'apporter des petits cailloux, des petits granules de 3 cm de diamètre, 2 cm. Ils sont petits quand même. Et on a essayé de savoir d'où ils venaient. Alors, il y a deux types de crayons de couleur. Il y a des jaunes et des rouges. Les crayons jaunes, c'est de la goethite. et les rouges, c'est de l'hématite. Alors on a cherché, la gothite, on en trouve dans la région de Nice, en particulier dans la vallée du Paillon. C'est un fleuve côtier qui se jetait à l'époque au pied même du site chelien de Terramata. Maintenant, il est dévié, etc., et puis il est couvert même. Et si on remonte le Paillon, dans les calcaires jurassiques dans lesquels s'écoule le Paillon, on peut trouver de la gothite. Et vraiment, dans les alluvions du Paillon, ils pouvaient ramasser des granules de gothite. Mais de l'hématite, il n'y en a pas dans la région. Alors, on peut chercher d'où ça vient. Alors, ça pourrait venir de la région d'Apte, Roussillon, hein. Mais c'est un peu loin quand même. On en peut en trouver dans les Alpes Apuanes, hein. On peut en trouver en Italie, à plusieurs endroits. Mais on les a analysés par ces granules d'hématite. On les a analysés par spectrométrie infrarouge, par diffractométrie aux X, au microscope électronique à balayage, etc. Et on s'est aperçu d'abord qu'ils étaient lustrés. Donc ils étaient lustrés, lissés, et ils avaient donc frotté sur une substance molle. D'autre part, l'hématite n'est pas une hématite naturelle, mais une hématite artificielle.
C'est-à-dire ?
Elle provient d'un chauffage de la gothite. Parce qu'en chauffant la gothite, ce tocre jaune, il perd des molécules d'eau, et il devient rouge.
Ah.
Et alors c'est une matière. Donc l'homme a fait exprès de
chauffer,
de l'hématite pour avoir du rouge, pour faire de l'hématite. Et il s'en est servi. Il s'est servi des crayons d'hématite. Il s'est servi des crayons. C'est à frotter sur une substance douce. On peut penser qu'il se colorait la peau. Et vous voyez, se colorer la peau, se tatouer, c'est vraiment vouloir s'individualiser, être différent des autres, marquer sa marque.
Sortir de la nature.
Oui.
Et est-ce que
c'est une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme, importante.
Vous insistez dans ce livre donc sur la domestication du feu, sur des sites que vous avez fouillés vous-même ou dont vous avez dirigé les fouilles, Henri de Lemley, comme celui de Terramata dont vous venez de parler, tout près de Nice, ou celui encore de la grotte du Lazaret, de celui-ci. Et dans ces deux endroits, vous dites effectivement, nous avons deux façons différentes d'envisager cette question de la domestication du feu, puisque l'un est à 800 mètres de l'autre à peu près. Sur
Terramata, ils n'ont pas le même âge. Hein.
Voilà, ils n'ont pas le même âge, effectivement.
Beaucoup plus récent, la grotte du Lazaret que je fouille depuis 1961 a un âge compris entre 190 000 et 120 000 ans.
Alors que l'autre, c'est plus de 400 000 ans.
C'est 400 000 et 380 000 ans.
Voilà, c'est ça. Et donc, pour ce site de Terramata, vous avez dressé une sorte de portrait dans ce livre sur cette crique qui était au bord de la mer, orientée au sud, à proximité d'une source, où on pouvait collecter des galets de roches dures pour fabriquer des outils, dites-vous. Et puis ensuite, vous vous posez la question de savoir si les gens y séjournent en permanence ou n'y viennent que pour des séjours de courte durée. Vous dites que c'est plutôt une halte de chasse, cet endroit-là.
Oui, c'est ça, des courtes, oui, assez courtes, oui, quelques jours, quelques semaines, mais pas très longtemps. C'était à Terramata, c'est un site qui date de 400 000, c'est une période chaude, et 380 000 ans, c'est le début d'une nouvelle période froide du Côte d'Hermès, l'extrême début. Et c'était les mêmes traditions. Alors, c'est les hommes, c'était des Homo erectus. D'ailleurs, nous avons trouvé une dent humaine qui montre qu'elle appartenait au groupe des Homo erectus, européens évolués. Ils connaissaient parfaitement leur territoire. Ils savaient où étaient les sources. Ils savaient où étaient les zones où on pouvait chasser, les marécages où on pouvait charogner. Ils connaissaient les grottes, les abris sous roches. Ils savaient où s'installer. Ils connaissaient parfaitement leur territoire. Et c'est ainsi qu'ils avaient choisi un jour de venir s'installer sur le site Terramata, qui est dans une crique bien abritée, au bord de mer, sur une plage. Et ils savaient qu'il y avait une source, qu'il y avait un grand rocher qu'ils reconnaissaient. Et ils s'installaient toujours au même endroit, à côté d'un grand bloc de pierre, à côté d'une source. Et ils installaient leur cabane. Alors, ils se remettaient au même endroit que leurs prédécesseurs, parce qu'on a plusieurs sols d'occupation superposés. Ces hommes sont revenus plusieurs fois. Et d'abord, ils ramassaient du bois sur la plage. Il y avait beaucoup de bois flotté. Ils faisaient une cabane. Des cabanes qui ont entre 6 mètres et 12 mètres de longueur, 4 mètres et 6 mètres de largeur, ovalaires.
Avec plusieurs foyers au milieu.
Alors oui, ça dépend les cabanes, oui. plusieurs foyers au mieux, souvent deux, trois foyers au mieux. Et c'était des cabanes ovalaires. Souvent, leur contour était en forme ovale. Leur contour était souvent souligné par des blocs de pierre qui devaient aider à maintenir les poteaux. On a même trouvé des empreintes de poteaux dans la sable de la dune. Donc des cabanes qui devaient être... Alors, on ne sait pas si elles étaient couvertes de branchages ou couvertes de peaux de bêtes, mais ce qui est certain, c'est qu'on connaît leur forme au sol. Et c'était à l'intérieur de ces cabanes qu'ils installaient leur foyer. Hein, toujours à l'intérieur de la cabane. Ils installaient des foyers qui sont petits. Alors ces foyers étaient installés soit dans une petite cuvette très peu profonde, ovalaire, un peu dissymétrique, soit sur un dallage de galets ou à même le sol. Parfois, ils faisaient un petit dallage, ils réunissaient quelques galets, fin dallage, et le feu était allumé ou dans une fosse. Et ces foyers étaient aménagés avec du bois, avec quelques brindilles de bois. Alors, c'est intéressant, c'est parce qu'on a fait, c'est une recherche, vous savez, la préhistoire, c'est une enquête de détective, c'est une recherche multidisciplinaire. Alors, on fait appel à des palynologues. Et le palynologue a montré que, par exemple...
C'est les spécialistes des pollens.
L'étude des pollens. Et a montré, en prenant les caractéristiques des pollens, qu'il y avait une forêt, la végétation, les arbres, c'était une dominance de ce qu'on appelle les angiospermes, c'est-à-dire les arbres à fleurs, hein, comme le chêne, par exemple. Hein. Et puis, il y avait aussi des résineux. Mais les résineux étaient en pourcentage beaucoup plus faible. Sur résineux, c'était le pin surtout, mais aussi le sapin qui devait venir d'eau, c'était du bois qui avait dû être transporté par le fleuve Paillon et qui avait flotté, qui était sur le littoral. Et dans les charbons de bois, alors, on trouve des choses différentes. Alors, notre spécialiste des charbons de bois, on dit l'anthracologue, ne s'entendait pas avec le palynologue, il disait... La végétation, c'était une dominance des pins sylvestres et des sapins. Et le palynologue dit, c'est pas vrai. La végétation, c'était la dominance des arbres à fleurs, comme le chêne. En fait, c'est que les hommes avaient triché. Ils ramassaient pour leur foyer des arbres qui résineux, parce que ça flambe mieux, etc.
Et puis surtout, ils entretenaient dans cet endroit de terrain à Mata, près de Nice, ils entretenaient leur foyer, dites-vous, avec des herbes marines.
Ah oui, ça oui, et surtout, parce que je vous ai dit, ils entretenaient leur foyer avec des brindilles de bois, des bois résineux, ça flambe bien, mais ils avaient besoin de trouver du combustible tout près, et ils allaient ramasser dans une vasière côtière, des herbes marines pour alimenter leur foyer. Pas que pour alimenter le foyer, pour faire des litières aussi. Des litières. Alors nous savons que c'était des vasières côtières d'après la composition de minuscules débris de coquilles marines qu'on trouve dans les cendres des foyers. En effet, on prélève la cendre des foyers, on la durcit, on prend des blocs qu'on durcit avec de la résine, etc. Et puis, on en fait la mamesse. Et on les observe au microscope, et à la binoculaire et au microscope. Et on peut déterminer des coquilles marines. Alors on a des coquilles marines, beaucoup de lamellibranches, mais aussi on a des grilles de loturie. Hein, et l'association des mollusques que l'on trouve, surtout des lamellibranches, mais aussi de toutes sortes d'autres espèces, permettent de dire que cette association correspond à une vasière côtière. Et ces foyers était entretenu avec une matière côtière. Alors, les herbes ont brûlé, mais il reste ces coquilles rubéfiées, c'est-à-dire rougies par le feu, et éclatées par le feu, que l'on trouve dans les cendres des foyers. Et on trouve aussi, alors ça c'est formidable, vous savez, la cendre, c'est du carbonate de calcium qui provient de la combustion des végétaux. Mais il y a c'est progressif. Et à un moment donné, il y a des pseudomorphoses, et on peut distinguer dans la calcite, l'origine. Mmh. Et on a pu mettre en évidence des pseudomorphoses de feuilles de posidonie. Hein, donc, et on a même trouvé, dans la cendre de ces foyers, des foraminifères qui vivent fixés sur les feuilles de posidonie, qui sont des pelouses sous-marines.
Et alors tous ces foyers, quand on en étudie la cendre, on a pu voir aussi que certains foyers étaient composés de matériaux qui faisaient très peu de flammes et très peu de chaleur, mais beaucoup de fumée.
Ah bon,
et on a pu en conclure que, je ne sais pas si on dit la fumaison des aliments.
Fumée, oui.
Ah voilà, ça c'est pour conserver les aliments. Ça montre aussi un changement de rapport au temps, puisqu'on commence
bien
à...
Bien sûr. Ah oui, bien alors, ça c'est au Lazaret. Dans le gros du Lazaret, dans des niveaux qui datent de 150 000, 160 000 ans, 170 000 ans, on a des foyers extraordinaires. Et alors, on a entrepris récemment des analyses des matières organiques. Alors, il y en a très peu, mais il y a des zones. On essaie maintenant, dans les différents niveaux, de faire des cartes de répartition des matières organiques.
Il y a des illustrations dans votre livre qui montrent
ça. On a fait des illustrations, oui. Alors, il y a des zones, il n'y a presque pas de manganique, et il y a des zones, il y a beaucoup de matières organiques. Mais on trouve de tout un peu partout. Alors, on a deux types de matières organiques. Ce sont des acides carboxyliques. Et en prenant les chaînes d'acides carboxyliques, on peut, en comptant le nombre d'atomes de carbone, 14 par chaîne, on peut savoir si, qu'ils soient pairs ou impairs, on peut savoir si c'est des acides carboxyliques qui proviennent de dégradation de lipides d'origine animale ou des dégradations de lipides d'origine végétale.
Ah oui.
Et il y a des carrés, il y a des zones, parce qu'on fouille par mètre carré, on a des zones où il y a une dominance écrasante d'acides carboxyliques qui proviennent de dégradation de lipides d'origine végétale. Ça, c'est sans doute, il devait y avoir beaucoup d'herbes, et ça devait être des zones de litière, d'herbes marines. On peut savoir même si c'était d'origine végétale marine ou terrestre. Mm-hmm. Et on peut savoir si des litières d'herbes marines, d'herbes terrestres, ou des herbes mélangées, d'herbes terrestres et graminées, etc. Et puis, il y a des zones où il y a une dominance très importante d'acides carboxyliques qui proviennent de dégradation de lipides d'origine animale. Et là, c'est les zones où on traitait la viande. Et alors, ce qui est intéressant, c'est dans ces zones où on traitait la viande, de voir là s'il y a les zones où il y a à la fois des composés aliphatiques et aromatiques, ou s'il n'y a que des composés aliphatiques. Eh bien, dans le gros du Lazaret,
aliphatique,
dans un certain niveau, on a trouvé beaucoup de composés aliphatiques, pas un seul composé aromatique.
Qu'est-ce que c'est aliphatique?
C'est des composés qui n'ont pas été cuits.
Ouais. Ah, d'accord.
Ouais. Et alors, manifestement, dans ces zones-là, ils consommaient de la viande crue. Mm-hmm. De la viande crue, ils mangeaient la graisse. Par contre, autour d'un foyer, où après il y a des matières organiques, et on trouve des composés, mais aussi des composés aromatiques qui proviennent de la cuisson de la viande. Ils faisaient des foyers et ils savaient l'allumer à leur gré, puisque à tous les niveaux, ça a duré d'une occupation d'une grotte qui était un lieu de chasseurs, de chasse. Les hommes de Néandertal, on a trouvé des restes humains qui sont des Néandertaliens, ils venaient traquer sur les corniches escarpées de la montagne de l'Ortus, ils venaient traquer des bouquetins, ils revenaient régulièrement. Et chaque fois qu'ils venaient, ils étaient capables d'allumer le feu. Et on étudiait les charbons de bois de ce site qui nous permettent que là, ils ont allumé leur foyer essentiellement avec du bois. Il n'y avait pas d'herbe marine, il n'y avait pas de feuilles de pondionie, on est très loin de la mer.
On a parlé tout à l'heure de la naissance de la pensée symbolique, peut-être du sentiment religieux chez les hommes qui est peut-être lié à l'apparition du feu. On parle souvent du moment où les hommes ont commencé à ensevelir leurs morts. Et dans votre livre, à moins que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu de moment où les hommes ont brûlé leur mort. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'à un moment, dans ces époques reculées...
Oh, c'est très récent. L'âge du fer, oui, c'est très récent. Ils ne brûlaient pas... on a trouvé, au Lazaret, par exemple, on a trouvé un numérus humain qui est brûlé. Mais c'est pas, ils n'ont pas brûlé le cadavre. Ces hommes-là, on a deux sortes, étaient cannibales. L'homme de Totavel, vers 400 000 ans, 500 000 ans, était cannibale. On a trouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Condargo, 149 restes humains. Mais c'est pas, il n'y a pas de sépulture. C'est des os cassés, brisés. On peut dire qu'ils ont été, ces os qui ont été cassés volontairement. Parce qu'il y a des cassures lisses, hélicoïdales, qui montrent que c'est des cassures volontaires sur ce frais. On les cassait pour en extraire la moelle. On trouve aussi sur ces os des stries de découpage, mm-hmm. de découpe. C'est-à-dire qu'on a coupé la viande, on a raclé la viande. Alors, c'est un cannibalisme. Alors, ce qui est intéressant à Condargo, à Totavel, c'est de voir à quoi correspond ce cannibalisme. Est-ce que c'est un cannibalisme alimentaire? Non. Parce que, on trouve des quantités, d'ossements d'animaux. Par exemple, des animaux où il y a des milliers d'os de mouflons, des milliers d'os de cerfs, des milliers d'os de rennes, des milliers d'os de chevaux. Et pour les animaux, pour tous ces animaux, on trouve tous les os du squelette, on trouve des crânes, des mandibules, mais on trouve beaucoup plus de côtes, beaucoup plus de vertèbres, beaucoup plus d'os du carpe ou du tarse. Vous savez qu'on a plein d'os du carpe et plein d'os du tarse. Beaucoup de phalanges, de phalangines, de phalangettes. Pour l'homme, on a plusieurs, les éléments de plusieurs crânes, les éléments de plusieurs mandibules, je crois qu'on a 5 mandibules, mais pas une seule vertèbre, pas une seule côte, pas un seul os du carpe, pas un seul os du sarse, pas de phalange, pas de phalangine, pas de phalangette, ou une petite phalangette, hein, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme n'était pas traité
de la même manière,
de la même manière que les animaux. Et alors, on s'est demandé pourquoi. Et on pense qu'ils ont récupéré le crâne, et le cerveau, sûrement, les mandibules s'y récupéraient la langue. D'ailleurs, on a une mandibule de jeune fille, voyez, une charmante jeune fille qui a dû mourir vers 16 ans. Bien, on a des stries de découpe au niveau des apophyses génies, là où il y a s'insère le muscle de la langue. On a dû récupérer la langue. Si un jour, ils n'avaient pas domestiqué le feu, je vous rappelle, si un jour vous voulez faire un repas préhistorique, procurez-vous des langues de jeune fille et vous les mangez crues.
et si on regarde du côté de la grotte du Boquete de Safaraya, par exemple, ah oui. Henri de Lemelet,
ah oui,
là, vous nous dites qu'il y a des restes humains brûlés, ah oui. Vous nous dites, entre 45 000 et 35 000. Alors moi, je me suis posé la question, parce que vous ne le dites pas très clairement dans le livre, est-ce que c'était là aussi de l'anthropophagie ou pas?
C'était de l'anthropophagie, mais le feu est postérieur aux stries de découpage.
C'est-à-dire
alors, on a des stries de découpage. C'était néandertalien. C'est associé à une culture moussaïenne. Ce sont les derniers néandertaliens. Et ils ont mangé, puis ils ont laissé les os dans une espèce de cuvette. Puis d'autres sont revenus plus tard et ils ont fait un feu à cet endroit-là.
Ah oui, donc ça n'est pas...
Par contre, on connaît des sites comme à Krapina, en Croatie. C'est tout près de Zagreb, où on a beaucoup de racines néandertaliennes, il y a beaucoup d'os humains brûlés. Et alors, dans le grotte du Lazaret, je vous ai dit, à Nice, dans une couche qui date d'à peu près 150 000 ans, on a trouvé un fragment d'humérus humain, c'est un humérus très grêle, très gracile, qu'on attribue à une jeune femme, et qui est cassée, qui a été fracturée volontairement, qui a été brûlée. Et là, on pense qu'on a dégusté une épaule de jeune fille.
Vous dites ça avec beaucoup de gourmandise. Je pense qu'effectivement, à part du côté d'Hannibal Lecter, personne d'autre ne tentera ce genre de choses. Henri de Lemelet, vous nous dites bien dans cette domestication du feu au temps paléolithique chez Odile Jacob, l'importance qu'a cette question de la domestication du feu. Ce que l'on aimerait savoir, après vous avoir lu d'une certaine façon, c'est comment les chercheurs ont évolué sur cette question-là. On est très loin de la guerre du feu de Rauniéné, on est très loin de ce qui était écrit au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle sur ces questions-là. On voit bien que cette pluridisciplinarité dont vous nous avez vanté les vertus tout à l'heure a changé le regard que l'on portait. Entre le Henri de Lemelet qui commence ses études dans les années 50 et celui qui nous parle aujourd'hui à la fin des années 2010, vous n'êtes pas le même. Vis-à-vis de cette question.
D'abord, les fouilles ont fait beaucoup de progrès. La préhistoire, c'est une enquête de détective. C'est une recherche multidisciplinaire, avec des spécialistes très variés, mais une réflexion interdisciplinaire. Par exemple, je peux vous donner un exemple à Totavel. À Totavel, je vous ai déjà donné quelques-uns, mais je vous en donne autre. On a des paléontologues qui travaillent sur la faune, et ils ont trouvé dans un niveau du bœuf musqué. Mmh. Alors, le bœuf musqué, c'est un animal qui vit au-delà du cerf polaire. Alors, ils vous répondent tout de suite, on leur demande quel était le paléontologue, c'est un climatique, au-delà du cerf polaire. Bœuf musqué, climatique. Ça, c'est la conclusion sèche, brutale.
Du spécialiste.
Et puis, la palynologue étudie, elle trouve une dominance de plantes herbacées, de graminées, enfin de poacées, de sicoriées. Donc c'est une steppe. Donc c'est pas très chaud, mais c'est assez froid. Mais elle trouve des pollens de pistachier et de lentisque. Donc ça donne une steppe méditerranéenne, si vous voulez.
Ouais. Ça colle pas.
Ça colle pas, alors ils se disputent, bien sûr. Alors on fait appel à une autre spécialiste. Un autre collaborateur étudie les échelles et récupère du collagène de bœuf musqué actuel, du collagène sur le muscles fossiles à Condorago, et il étudie les chaînes d'acide gras. Et il s'aperçoit que les chaînes d'acide gras du bœuf musqué d'il y a 400 000 ans et du bœuf musqué ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même écologie. Et ça, c'est normal. On ne peut pas trouver à Tourtavel le même climat que dans l'Arctique. Nulle part ailleurs dans le monde, on peut trouver le climat qu'il y avait à Tourtavel. Parce que dans l'Arctique, il fait nuit 6 mois par an, puis il fait jour 6 mois par an. À Tourtavel, il faisait jour tous les 24 heures. Hein? Donc, on ne peut pas retrouver. Mais c'est intéressant d'avoir, après les analyses spécifiques, une réflexion interdisciplinaire pour faire une synthèse.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors, tous ces croisements de disciplines invitent, on le voit, à une certaine humilité des chercheurs. Est-ce que vous pensez possible qu'un jour, on fasse remonter la découverte du feu ou la domestication du feu bien au-delà des 400 000 ans?
Alors, peut-être, oui. Il faut trouver d'autres sites. Il faut fouiller. Au cours des dernières années, les fouilles, les recherches prises sur le terrain se sont multipliées. On fouille avec beaucoup plus de rigueur. Hein, mais pendant longtemps, la fouille préhistorique, c'était ça. On cherchait de beaux objets. Mmh. Maintenant, on étudie de plus en plus, avec des techniques de laboratoire, le matériel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle a été créé l'Institut de paléontologie humaine en 1910. Un jour, Marcelin Boule, qui était professeur au muséum, et l'abbé Breuil ont eu l'idée d'ouvrir et le père Aubé Maillère, qui était autrichiens, ont eu l'idée d'ouvrir une fouille dans une grotte des Pyrénées Cantabriques, près de Santander. Alors ils sont allés à la grotte et ils ont invité le prince Albert Ier de Monaco, qui était un grand scientifique. Il était à la fois océanographe, mais aussi préhistorien. Il avait fait des fouilles dans les grottes de Guimaldi, au Baoussé-Roussé, près de la frontière franco-italienne. À l'époque, ce n'était pas la frontière italienne, c'était le duché de Savoie. Et il avait fait des fouilles dans ce site-là. Et il s'était intéressé, il a accepté de venir visiter la grotte de Castillo. Alors le Marcelin Boule lui expliquait que la préhistoire est une science, c'était en 1910, c'était une science nouvelle, une science jeune, que nulle part dans le monde il y avait un laboratoire pour étudier le matériel que l'on trouvait, qu'il n'y avait pas de préhistoriens professionnels, c'est des curés, des instituteurs, des pharmaciens, des dentistes qui faisaient des fouilles, et qu'il fallait créer un laboratoire. Et le prince Albert Ier, qui savait décider vite, a dit d'accord, et il a financé la construction de l'Institut de paléontologie humaine, Fondation Albert Ier, prince de Monaco, en 1910, pour qu'on étudie, avec des techniques interdisciplinaires, la préhistoire.
Un institut que vous dirigez encore, Henri Delhomelay. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La domestication du feu au temps paléolithique chez Odile Jacob. On parlera avec vous demain de Prométhée et de son mythe. On parlera après-demain des Vestales avec vous, Victor Massé de l'Épinay. Et pour terminer, un documentaire que vous avez réalisé avec Renaud Dalmar sur l'histoire des pompiers et la façon dont ils rendent hommage en particulier à leurs grands anciens. Merci à toutes et merci à tous. Comme d'habitude, cette émission de la Fabrique de l'Histoire a été préparée par Aurélie Marcet et par Francesca Fossati. Bruno Gagnafontani était avec nous à la technique et Renaud Dalmar nous avait rejoint à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, donc franceculture.fr, et puis aussi, vous pouvez télécharger l'émission pendant l'année qui suit sa diffusion, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.